Merci. Donc, je vais essayer effectivement de parler clair et essayer de montrer en quoi effectivement ce rôle de l'ARP, finalement, il évolue au fur et à mesure que l'Europe elle-même évolue. Et c'est vrai que l'ARP au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir, ne serait-ce que quantitativement, mais aussi, j'espère, qualitativement, avec ce qui se faisait encore il y a quelques années. Je vais parler de l'ARP française, puisqu'on est dans l'ARP française, mais je pense, mais peut-être que notre collègue britannique pourra compléter, je pense que ces aspects un peu descriptifs sur le rôle de l'ARP dans le jeu bruxellois sont des aspects qui se retrouvent chez toutes les autres RP des autres États membres, en tous les cas sur les grandes fonctions. Alors pour essayer de présenter ce qu'est une représentation permanente, je dirais qu'il s'agit de négocier, promouvoir, défendre les intérêts français. Négocier, c'est le cœur de métier, c'est discuter des textes qui vont ensuite s'appliquer dans chacun de nos États membres, et c'est le cœur de métier, c'est-à-dire le métier originel ou original des représentations permanentes des différents États membres à Bruxelles. Mais de plus en plus, en plus de cette négociation, il y a aussi un travail en amont et en aval. En amont, c'est avant même que la négociation se passe, un travail qui est plus de lobbying, et c'est donc ce que j'appelle la promotion des intérêts français. C'est avant même de négocier sur des textes, il faut essayer d'avoir une capacité d'influence. Et puis, en aval, ce que j'appelle la défense des intérêts français, c'est-à-dire qu'une fois que les textes sont en vigueur, leur mise en œuvre peut parfois poser problème, et notre rôle, c'est aussi d'essayer de veiller à ce que, dans la mise en œuvre, les intérêts français, ou ce que l'on considère comme étant les intérêts français, ne soient pas méconnus ou contestés. Alors, je vais essayer de revenir sur chacun de ces trois aspects, ou chacune de ces trois phases, mais en essayant d'être aussi bref que possible. La négociation, donc le cœur de métier des représentations permanentes, parce que historiquement, lorsque les États membres ont éprouvé le besoin donc de se doter de structures permanentes à Bruxelles, c'était essentiellement pour participer aux travaux du Conseil, puisque dans l'architecture communautaire que vous connaissez, les propositions de la Commission pour devenir des règlements ou des directives, surtout des règlements, doivent être évidemment à la fois approuvés par le Conseil et puis de plus en plus par le Parlement européen, au fur et à mesure que le Parlement européen s'est vu reconnaître un pouvoir de codécision notamment. Donc, au sein du Conseil, les 27 États membres sont représentés et donc il s'agit de négocier avec nos 26 autres partenaires à partir des propositions de la Commission pour parvenir aux textes qui vont ensuite s'appliquer. Donc vraiment, notre cœur de métier, c'est négocier, c'est qu'on prend à un moment donné, la Commission décide de sortir une proposition. Cette proposition, elle est sur la table du Conseil, ça prendra le temps que ça prendra, et c'est de plus en plus long, évidemment, et compliqué dans une Europe à 27 par rapport au temps sans doute béni de Jacques Delors, où on était un petit peu moins nombreux et on se comprenait plus facilement, où le français d'ailleurs aussi était plus facilement parlé, alors que maintenant tout se passe en anglais ou quasiment. Et donc, à un moment donné, donc, ce texte arrive sur la table du Conseil et il faut arriver à des compromis, donc à 27. Et puis là où ça se complique, c'est que de plus en plus, et en parallèle, du moins lorsque l'on est dans des matières qui sont en codécision, le Parlement européen, lui, fait ce même travail avec des logiques qui peuvent être évidemment complètement différentes, puisque même si les logiques nationales sont encore parfois présentes au sein du Parlement européen, la plupart du temps, il faut reconnaître que, et c'est normal, s'agissant d'une assemblée élue, les principaux clivages sont pas nécessairement dans le sens des négociations qui sont menées par ailleurs au sein du Conseil, où là, ce sont plutôt les intérêts nationaux qui sont en discussion. Ça donne une mécanique assez complexe à gérer, évidemment, où l'ARP donc s'efforce, enfin, c'est pas qu'elle s'efforce, c'est qu'elle est avant tout, parce que c'est sa mission première, et parce qu'elle participe pleinement, elle est surtout présente donc, dans ses négociations au Conseil, mais elle ne peut pas non plus se désintéresser de ce qui se passe au Parlement, et notamment du lien à avoir avec nos parlementaires nationaux, ne serait-ce que pour les informer de ce qui se passe dans les négociations au niveau du Conseil, les tenir informés d'éventuelles difficultés, ou en tous les cas de points centraux pour lesquels la France a défini une position forte. Et à ce moment-là, évidemment, on peut être amené à solliciter nos parlementaires, ou en tous les cas à les sensibiliser à cette prise de position assez forte exprimée par la France au Conseil, de manière à ce que leur avait conscience ils puissent ou non décider de reprendre à leur compte cette position lors de leur prise de position au sein du Parlement. Au sein du Conseil, il y a évidemment, enfin, dans la discussion au sein du Conseil, il y a différents niveaux de discussion. Il y a les groupes de travail, il y a le COREPER, il y a le Conseil des ministres, et puis tout en haut, il y a le Conseil européen. Quand une proposition de la Commission sort, au départ, sauf exception, elle est discutée au niveau du groupe de travail. Il y a je ne sais plus combien de groupes du Conseil à l'heure actuelle. Combien ? 168. Je croyais qu'il y en avait même encore plus. Mais qui couvrent donc un petit peu tous les champs d'action communautaires. Et au niveau du groupe, c'est l'ARP qui la plupart du temps est présente derrière l'écriteau France, Royaume-Uni, etc., au niveau donc des conseillers qui sont en charge de ces sujets. Le rôle du groupe, c'est d'essayer d'examiner le maximum de la proposition, notamment tous ces aspects un peu techniques, pour essayer de se mettre d'accord. Et puis, lorsque certains points ne peuvent être résolus au niveau du groupe, eh bien, on monte d'un cran. Et à ce moment-là, ça monte au niveau du COREPER, le comité des représentants permanents, composé des ambassadeurs représentants permanents des différents États membres à Bruxelles. Et le COREPER, à son niveau, avec une vision un petit peu plus transversale, puisque le COREPER a vocation à connaître, enfin, les deux formations du COREPER ont vocation à connaître de l'ensemble des sujets. Donc au niveau du COREPER, on peut espérer, mais avec cette vision un petit peu plus transversale, il y a possibilité déjà de débloquer parfois certains désaccords persistants au niveau du groupe. Et puis, si le COREPER lui-même n'y parvient pas, il y a éventuellement la possibilité, évidemment, d'évoquer cela au niveau du Conseil des ministres. Étant précisé qu'en tout état de cause, les décisions pour ce qui est du Conseil sont formellement toujours prises par le Conseil des ministres. La plupart du temps, et notamment sur les sujets épitechniques, en points qui ne sont pas discutés, débattus, à proprement parler, puisque précisément les niveaux inférieurs ont réussi à dégager un accord, donc que ce soit au niveau du groupe ou au niveau du COREPER, et à ce moment-là, le Conseil des ministres ne fait qu'endosser l'accord qui a été négocié à un niveau inférieur. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il y a effectivement donc un débat au niveau des ministres pour essayer de parvenir à un accord. Voilà pour les aspects de négociation, mais je disais que de plus en plus, le rôle des RP, c'est aussi d'être présent en amont et en aval de cette phase de négociation qui longtemps a été le seul focus, disons, des RP. Le travail en amont, ça s'apparente à un travail de lobbying, et de ce point de vue, moi j'ai tendance à considérer que les RP sont des lobbyistes parmi d'autres, alors évidemment des lobbyistes un peu particuliers puisqu'ils représentent des États membres, mais on a tous bien conscience que dans un Conseil à 27 États membres, une fois qu'une proposition de la Commission commission est sur la table, c'est parfois difficile de la modifier substantiellement. Il faut rallier à soi un nombre non négligeable d'États membres, une majorité qualifiée, ou au contraire bloquer tout, ce qui est plus facile en essayant simplement de réunir une minorité de blocage. Enfin, c'est un petit peu moins constructif. Donc de plus en plus, il faut essayer d'être à l'affût de ce qui se prépare, de ce qui se discute au sein même de la commission, et puis essayer de faire passer des messages sur les lignes rouges à ne pas franchir sur tel ou tel sujet, quand on a, pas toujours sur tous les sujets, il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça nécessite d'être vraiment à l'affût. Et d'ailleurs, je crois que de plus en plus, quand on est à Bruxelles, moi je trouve que ce qui est frappant par rapport au fonctionnement en France, des administrations nationales, c'est cette impression d'être dans un fonctionnement complètement en réseau, avec évidemment beaucoup d'acteurs, beaucoup d'informations qui circulent plus ou moins de manière naturelle, et donc le fait d'être à l'affût et d'aller rechercher l'information, d'avoir des contacts dans les différentes institutions qui peuvent alerter, qui peuvent être utiles pour essayer d'expliquer, de comprendre ce qui se passe, etc. Et donc c'est de plus en plus, je crois, une part importante de notre rôle, de notre mission donc à Bruxelles. Et puis en aval, donc c'est une fois que les règlements ont été négociés, sont entrés en vigueur, parfois, qui s'appliquent dans notre pays comme dans les autres, et parfois ça peut poser des difficultés de mise en œuvre, et à ce moment-là, on peut être amené, puisqu'après tout, on a participé à l'élaboration de ces règles, à appuyer, seconder certaines de nos entreprises ou certains acteurs du type collectivité territoriale qui, dans la mise en œuvre, sont confrontés à des difficultés, notamment avec la commission et notamment au sein de la commission, certaines directions générales. Je pense notamment à la direction, à la DG Régio, avec laquelle j'ai l'habitude plus particulièrement de travailler sur la politique de cohésion. Il y a une assez forte dichotomie entre, d'une part, une partie de la direction générale qui est focalisée sur la préparation des règlements, l'élaboration de la politique elle-même, la conception de la politique, et puis toute une autre partie qui est chargée de sa mise en œuvre avec des unités géographiques qui suivent tel ou tel pays. Et il y a parfois des différences de langage assez importantes entre ces deux parties d'une même direction générale. Donc là où on peut aider nos collectivités territoriales, nos entreprises, qui dans la mise en œuvre de cette politique sont confrontés à des interprétations qui peuvent paraître un petit peu en décalage. Nous, on peut donc aider en étant présent pour essayer de rappeler aussi à la Commission qu'au moment où les textes ont été négociés, ce n'est pas vraiment cela qui avait été envisagé, conçu ou présenté. Et donc, il y a aussi, je crois, et c'est une tendance croissante, à accompagner la mise en œuvre de ces textes européens. Donc voilà, en quelques mots, ce que peut être au quotidien le rôle d'une RP. Pour terminer, peut-être quelques mots sur la structure elle-même, comment on est, vous voyez les locaux où nous sommes installés, donc c'est tout l'immeuble, donc on est quand même relativement nombreux, donc la tendance là aussi c'est à l'augmentation de cette structure RP. Historiquement, les représentations permanentes sont un petit peu calqué sur le modèle d'ambassade. D'ailleurs, nous avons toujours à notre tête un ambassadeur représentant permanent, avec un autre diplomate qui est représentant permanent adjoint. Mais l'évolution très nette au cours des 20 dernières années, c'est une tendance quand même à la diminution de la part des diplomates dans la RP et une tendance pour faire croissante à l'interministérialisation de cette représentation permanente. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, les diplomates, il en reste, il en faut, sont essentiellement présents, et c'est normal, dans toutes les questions Rolex, c'est-à-dire qui touchent à la politique étrangère, sécurité, économique. plus en plus des agents issus des différents ministères qui sont présents à Bruxelles et qui négocient pour, sur ces différentes questions, parce que le secteur qui suit la PAC est avant tout, enfin même exclusivement constitué de fonctionnaires issus du ministère de l'Agriculture. Pour ce qui est de la politique de cohésion dont je m'occupe, pour ma part, je suis originaire du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a vraiment, enfin, tous les ministères sont aujourd'hui présents à Bruxelles. Avec quand même une précision importante, me semble-t-il, c'est que dès lors qu'on est là pour définir, enfin, défendre les positions françaises, on n'est pas là pour défendre la position de notre ministère. Et là, c'est une nuance importante, parce que, certes, on a au quotidien des contacts privilégiés avec tel ou tel ministère, notamment avec notre ministère d'origine, mais on se doit de tenir compte, évidemment, des positions telles qu'elles sont arbitrées par une structure qui n'est pas très connue et qui est importante à citer ici, qui est le SGAE, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes, donc qui est à Paris un service placé auprès du Premier ministre, et qui est le service chargé de faire la coordination interministérielle sur toutes les questions communautaires. Donc, au quotidien, on a toujours, chacun pour nos sujets, un ministère référent, un ministère privilégié. Je prends l'exemple de la PAC, c'est évidemment le ministère de l'Agriculture. Mais lorsqu'il y a une négociation à mener, les positions à défendre par la France seront toujours des positions, certes sans doute préparées par le ministère de l'Agriculture, mais arbitrées au niveau du Premier ministre par le SGAE. Alors, ça peut être la position du ministère référent non modifié, mais ça peut être parfois des positions complètement revues, parce que notamment les questions budgétaires sont entrées en ligne de compte. C'est le cas de figure évidemment le plus fréquent, comme vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que la position du ministère qui suit le sujet en question rentre en contradiction avec des impératifs budgétaires. À ce moment-là, il y a bien un arbitrage à donner. Et donc, nous, dans notre action au quotidien, lorsque l'on va au Conseil négocier, on a toujours ce qu'on appelle des instructions, qui sont des documents préparés par le SGAE sur la base d'une consultation interministérielle. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce qu'est une...